du retrait électoral des classes populaires. Ensuite et surtout, il est frappant de constater que les participations électorales les plus élevées sont associées à une certaine égalité sociale face à la participation, et à l'inverse, que les participations plus faibles correspondent à une très forte inégalité sociale face au vote, avec un maintien d'une participation relativement élevée parmi les électeurs socialement les plus favorisés et une chute parmi les classes populaires. Voir graphique 14.8. Concrètement, les enquêtes post-électorales menées tout au long de la période 1948-2017 aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France permettent de mesurer les taux de participation en fonction des caractéristiques socio-économiques individuelles. Aux États-Unis, où la participation d'ensemble est faible, on constate que la participation a toujours été beaucoup plus forte parmi les électeurs disposant des 50% des revenus les plus élevés que parmi les 50% les plus bas, avec un écart qui a généralement oscillé entre 12 et 20% au cours des 60 dernières années. On retrouve un biais du même ordre si l'on utilise le diplôme, la profession ou le patrimoine. Quel que soit le critère utilisé, on constate une abstention beaucoup plus forte parmi les catégories populaires. Au Royaume-Uni et en France, la participation électorale était au cours de la période 1950-1980 quasiment aussi forte parmi les classes populaires moyennes et supérieures. Concrètement, l'écart de taux de participation entre les 50% des revenus les plus élevés et les 50% les moins élevés était d'à peine 2-3%. Autrement dit, toutes les catégories sociales votaient pratiquement dans les mêmes proportions, avec des participations avoisinant les 80%. En revanche, à partir des années 1990, à mesure que la participation d'ensemble s'abaisse, on constate qu'un biais social de plus en plus fort se met en place. Dans les années 2010, en France comme au Royaume-Uni, l'écart de participation entre les 50% des revenus les plus élevés et les 50% des revenus les plus faibles atteint environ 10-12%, soit un niveau s'approchant des écarts observés aux États-Unis. On constate là encore des écarts similaires si l'on raisonne en termes de diplôme, de profession ou de patrimoine. Nous reviendrons plus loin sur ce phénomène de retrait électoral des classes populaires, qui a une importance centrale pour notre enquête. Ce retrait a été quasi permanent aux États-Unis au cours du dernier demi-siècle. Ce phénomène est apparu au cours de la période 1990-2020 en France et au Royaume-Uni, alors que la participation politique dans ces pays était relativement égalitaire au cours des années 1950-1980. L'interprétation naturelle pour cette évolution et que les classes populaires se sont senties moins bien représentées par les mouvements politiques et les plateformes programmatiques qui leur étaient proposées lors de la seconde période. De ce point de vue, il est frappant de constater que le passage au pouvoir du New Labour de Tony Blair en 1997-2007 et des socialistes français en 1988-1993 et 1997-2002 semble s'être accompagné d'une chute particulièrement forte de la participation parmi les catégories les plus modestes. Il faut ajouter que les participations indiquées ici sont calculées en proportion des populations inscrites sur les listes électorales, les personnes non inscrites sur les listes étant généralement non couvertes par les enquêtes. Or, la non-inscription peut atteindre ou parfois dépasser 10% des personnes qui ont théoriquement le droit de vote, et ce phénomène est particulièrement marqué parmi les classes populaires, et notamment au sein des électeurs noirs aux États-Unis, parfois du fait de restrictions et procédures appliquées par certains États, en lien notamment avec la détention de certains papiers d'identité ou un passage par la prison. Jusqu'au milieu des années 1960, il était quasiment impossible pour les Noirs d'être inscrits sur les listes électorales dans les États du Sud, du fait notamment des prétendus critères éducatifs appliqués en pratique de façon totalement biaisée par les administrations blanches. Les lois fédérales de 1964-1965 ont mis fin aux biais les plus grossiers, tout en permettant aux États de garder la main sur les listes et d'affecter leur composition sociale et raciale de façon plus indirecte. En France, les enquêtes post-électorales menées en 2012 et 2017 permettent de mesurer la non-inscription et conduisent à constater l'existence de très forts biais sociaux. On constate en effet dans ces deux enquêtes que la non-inscription sur les listes électorales concerne en moyenne 6% des personnes de nationalité française résidant en France et que ce pourcentage passe de 4% parmi les cadres et les plus diplômés à 10% parmi les ouvriers et les moins diplômés, et de 11% parmi les 18-25 ans à 2% parmi les plus de 65 ans. Au final, le retrait des classes populaires observé au cours de la période 1990-2020 illustre une rupture fondamentale entraînée par la chute du système de clivage classiste de la période 1950-1980. Dans l'absolu, le fait que le conflit politique s'organise sur une base classiste, avec d'un côté un parti ou une coalition attirant les votes des plus modestes, quelle que soit la dimension retenue, éducation, revenus, propriété, et de l'autre, un parti ou une coalition s'appuyant sur les votes des plus aisés, là encore, quelle que soit la dimension considérée, n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. On pourrait même considérer qu'un conflit électoral trop fortement clivé sur une base purement classiste serait le signe d'un certain échec démocratique. La confrontation électorale se réduirait alors à une opposition d'intérêts antagonistes et ne mettrait plus en jeu les échanges de points de vue et d'expériences pourtant indispensables pour donner du sens au régime électoral dans son ensemble. En l'occurrence, on remarquera cependant que les clivages classistes de la période 1950-1980 laissaient une large place à la diversité des trajectoires et des subjectivités individuelles. Les niveaux de diplôme, de revenus et de patrimoine les plus bas étaient en moyenne associés à des votes un peu plus importants pour les partis de gauche, mais la relation était loin d'être systématique. Le conflit électoral de type classiste avait au moins un mérite. Il s'accompagnait d'une forte mobilisation de toutes les catégories sociales dans des proportions comparables, tout du moins en Europe. La confrontation politique accordait alors une large place aux questions de redistribution, avec la mise en place des divers systèmes d'assurance sociale et la montée en puissance de l'État fiscal et social. Chaque coalition apportait à ses débats ses expériences et ses aspirations contradictoires, et de ces contradictions émergeaient des choix qu'il serait naïf de qualifier de pleinement démocratiques, tant les asymétries dans la répartition du pouvoir et de l'influence politique étaient nombreuses, mais qui s'appuyaient néanmoins sur une participation sociale équilibrée. À l'inverse, le régime électoral à base d'élites multiples en vigueur dans les années 1990-2020 met toujours en scène les clivages sociaux, puisqu'une coalition politique attire notamment les suffrages des plus diplômés, alors que l'autre recueille ceux des plus hauts revenus et patrimoines. Mais il oblitère pour une large part le débat sur la redistribution et s'accompagne du retrait du jeu politique des catégories populaires, ce qui peut difficilement être considéré comme positif. Du renversement du clivage éducatif, l'invention du parti des diplômés. Venons-en maintenant à ce qui constitue sans doute l'évolution la plus frappante sur longue période, à savoir la transformation du Parti des travailleurs en Parti des diplômés. Avant d'en venir aux explications, il convient tout d'abord de constater que le renversement du clivage éducatif est un phénomène extrêmement général. En particulier, il s'agit d'un renversement complet, visible à tous les niveaux de la hiérarchie des diplômes. Considérons par exemple les élections législatives de 1956, particulièrement réussies pour les partis de gauche, socialistes, communistes et radicaux, qui réunirent ensemble près de 54% des suffrages. Ils réussirent même à obtenir la confiance de 57% des électeurs sans diplôme ou dont le plus haut niveau de diplôme était le certificat d'études primaires, soit au total 72% de l'électorat de l'époque, voire graphique 14.9. Au sein des diplômés du secondaire, soit 23% de l'électorat en 1956, leur score fut de 49%. En revanche, parmi les diplômés du supérieur, soit à peine 5% de l'électorat de l'époque, ils ne réunirent que 37% des suffrages. On pourrait s'imaginer qu'il s'agit d'un hasard statistique, lié à la taille limitée de l'enquête ou aux spécificités de cette élection. En réalité, il n'en est rien. D'une part, même si la taille de l'échantillon n'est pas aussi élevée que ce que l'on souhaiterait, l'écart est très fortement significatif. D'autre part, nous retrouvons exactement ce même profil décroissant avec l'éducation pour toutes les élections de l'époque. Enquête après enquête, sans exception, quels que soient par ailleurs les événements politiques. En particulier, on retrouve le profil observé en 1956 lors des élections de 1958, 1962, 1965 et 1967. Il faut attendre les années 1970 et 1980 pour que le profil commence à s'aplatir, puis à s'inverser progressivement. À partir des années 1990, le profil du vote à gauche devient nettement croissant avec le niveau de diplôme. Cette nouvelle norme apparaît de plus en plus claire au fur et à mesure que l'on avance dans les années 2000 et 2010. Par exemple, lors de l'élection présidentielle de 2012, remportée par le candidat du Parti socialiste François Hollande face au candidat de droite Nicolas Sarkozy avec 52% des voix contre 48%, on constate que la gauche doit entièrement sa victoire aux plus diplômés. Parmi les personnes sans diplôme ou diplômées du primaire, soit seulement 18% des électeurs en 2012, le candidat socialiste réunit seulement 47% des suffrages. Son score fut de 50% au sein des diplômés du secondaire, 56% de l'électorat, et il atteint 58% des voix parmi les diplômés du supérieur, 26% de l'électorat en 2012. Là encore, on pourrait s'imaginer qu'il s'agit d'une coïncidence, liée par exemple à la personnalité des candidats. Il n'en est rien. On retrouve exactement ce même profil de vote pendant toutes les élections de la période, en particulier en 2002, 2007, 2012 et 2017. De façon générale, si l'on examine les profils du vote à gauche par diplôme en France pour l'ensemble des élections de la période 1956-2017, il est frappant de constater le caractère extrêmement graduel et progressif de la transformation observée au cours de ces 6 décennies. Le profil est systématiquement décroissant au début de la période, dans les années 1950 et 1960, s'aplatit au milieu, dans les années 1970, 1980 et 1990, et est devenu systématiquement croissant en fin de période, dans les années 2000 et 2010. Voir graphique 14.10. Plusieurs points méritent d'être précisés. Tout d'abord, tous les résultats présentés ici sur la décomposition du vote concernent uniquement les votants. Si l'on ajoute à cela le fait que la participation électorale a chuté en fin de période parmi les moins diplômés, alors cela rend l'évolution encore plus spectaculaire. En particulier, cela signifie que le soutien obtenu par les partis de gauche parmi les moins diplômés a baissé encore plus fortement que ce qui est indiqué sur le graphique 14.10. Ensuite, il faut ajouter que ce renversement complet du clivage éducatif se retrouve non seulement entre les niveaux de diplôme primaire, secondaire et tertiaire, mais également au sein de chaque catégorie de diplôme. Par exemple, parmi les diplômés du secondaire, on constate en début de période que les titulaires du baccalauréat, secondaire long, votent moins fortement à gauche que les titulaires du brevet des collèges, secondaire court. À la fin de la période, c'est l'inverse. Les bacheliers votent plus souvent à gauche que ceux dont les études secondaires se sont arrêtées plus tôt. Il en va de même parmi les diplômés du supérieur que les enquêtes post-électorales permettent de décomposer plus finement à partir des années 1970, à mesure que l'enseignement universitaire s'étend et se diversifie. En particulier, on peut distinguer les titulaires de diplômes courts, en 2 ou 3 ans après le bac, et les diplômés du supérieur long. Maîtrise, diplôme d'études approfondies, grandes écoles commerciales et scientifiques, etc. Lors des élections de 1973, 1974 et 1978, où les diplômés du supérieur dans leur ensemble tendent à voter pour les partis et candidats de droite, cette tendance est particulièrement prononcée parmi les diplômés du supérieur long. Il en va de même lors des élections de 1981 et 1988, mais avec un écart moins important. À partir des années 1990, et de façon plus nette encore dans les années 2000 et 2010, le clivage s'est inversé. Plus le diplôme obtenu dans le supérieur est élevé, plus le vote pour les candidats et partis de gauche est élevé. Ceci est vrai non seulement pour l'élection de 2012, où le candidat socialiste fait ses plus hauts scores parmi les diplômés du supérieur long, mais également pour toutes les autres élections de la période. De la robustesse du retournement du clivage éducatif. Il faut également préciser que ce retournement complet du clivage éducatif se retrouve à l'intérieur de chaque groupe d'âge et plus généralement en résonnant au sein de groupes disposant de caractéristiques socio-démographiques et économiques semblables. Commençons par l'effet de l'âge. On pourrait penser par exemple que le vote particulièrement élevé des diplômés du supérieur en faveur du candidat socialiste en 2012 s'explique non pas par l'effet du diplôme en tant que tel, mais parce que les plus diplômés sont souvent des jeunes, et que les jeunes votent plus souvent à gauche. C'est en partie le cas, et cela contribue à expliquer pourquoi l'écart de vote à gauche entre les diplômés du supérieur et les non-diplômés du supérieur diminue légèrement lorsque l'on raisonne à âge donné. Mais on peut montrer que le biais est relativement faible. Il existe en effet de nombreux jeunes non diplômés et de nombreux diplômés parmi les personnes les plus âgées, ce qui permet de séparer nettement les deux effets. Au final, les données disponibles montrent sans ambiguïté, enquête après enquête, que l'effet du diplôme à l'intérieur de chaque groupe d'âge a quasiment la même ampleur qu'au niveau de la population prise dans son ensemble. Par ailleurs, ce léger biais a toujours été présent. Les jeunes ont toujours eu tendance à voter plus fortement à gauche et les jeunes ont toujours été plus diplômés que la moyenne de la population dans les années 1950 et 1960 comme dans les années 2000 et 2010. Techniquement, la courbe obtenue après avoir introduit l'âge comme variable de contrôle est toujours un peu plus basse qu'en l'absence de variable de contrôle, car une petite partie de l'effet du diplôme est liée à l'âge. Mais cet effet est en première approximation constant au cours du temps, si bien que la prise en compte de l'âge n'a quasiment aucun effet sur l'ampleur de la tendance observée au cours du demi-siècle, qui en ce sens paraît très robuste. En 1956, en France, les partis de gauche, socialistes, communistes, radicaux, obtiennent un score qui est 17 points plus faible parmi les diplômés du supérieur que parmi les non-diplômés du supérieur. En 2012, ce score est 8 points plus élevé parmi les diplômés du supérieur. La prise en compte des variables de contrôle, âge, sexe, situation de famille, revenu, patrimoine, n'affecte pas la tendance. Voir graphique 14.11. On notera également que cet effet général de l'âge sur le vote se retrouve dans les autres démocraties électorales sans pour autant affecter les tendances observées concernant le renversement du clivage éducatif. Concrètement, on constate par exemple des années 1950 aux années 2010 que les électeurs âgés de 18 à 34 ans ont généralement voté plus fortement que les électeurs de plus de 65 ans pour les partis de gauche en France, pour le Parti démocrate aux États-Unis ou pour le Parti travailliste au Royaume-Uni. Cela peut s'expliquer par le fait que le positionnement idéologique de ces partis a été, en règle générale, plus favorable aux aspirations de la jeunesse, notamment en matière de mœurs et de religion, alors que les partis de droite défendaient des options plus conformes aux dispositions des électeurs plus âgés. On remarquera toutefois que cet écart de vote entre les électeurs les plus jeunes et les plus âgés manifeste dans tous les pays une très grande volatilité. Il est particulièrement fort aux États-Unis dans les années 1960, en France dans les années 1970 et au Royaume-Uni à la fin des années 2010. À l'inverse, il est souvent plus faible, voire quasi nul, à d'autres périodes, en particulier après les passages prolongés des partis de gauche au pouvoir. Quoi qu'il en soit, cette intéressante volatilité de la jeunesse est sans effet sur la tendance de fond qui nous intéresse principalement ici, à savoir le retournement complet du clivage éducatif. J'ai également inclus le genre et la situation de famille dans les variables de contrôle utilisées sur le graphique 14.11. Cela n'a que peu d'impact sur l'effet du diplôme. Le retournement du clivage éducatif se retrouve aussi bien parmi les femmes que parmi les hommes, et il est tout aussi marqué parmi les personnes seules que parmi celles vivant en couple. On notera à ce sujet que les enquêtes utilisées confirment le glissement à gauche de l'électorat féminin sur longue période. Dans les années 1950 et 1960, les femmes votaient beaucoup plus souvent à droite que les hommes, en particulier en France et au Royaume-Uni, et à un degré moindre aux États-Unis. Ce biais s'est amoindri au cours des années 1970 et 1980, avant de s'inverser légèrement en France et au Royaume-Uni, où les femmes votent généralement un peu plus à gauche que les hommes dans les années 1990, 2000 et 2010, et plus nettement aux États-Unis. Pour rendre compte de cette évolution, Des travaux ont insisté sur l'importance de la montée du divorce, des séparations et des situations de fragilité économique des femmes, en particulier dans le cas de mères isolées. Plus généralement, cette évolution témoigne de transformations socio-économiques et politico-idéologiques profondes concernant les structures familiales et la montée en puissance de la question de l'égalité homme-femme. En particulier, l'objectif d'égalité professionnelle a progressivement remplacé le modèle patriarcal et l'idéologie de la mère au foyer, largement dominant dans les années 1950-1960 et fortement intériorisé par une partie importante des femmes, et les revendications féministes ont été principalement portées par la gauche électorale. Ainsi que nous l'avons déjà vu, les inégalités de revenus et de patrimoine liées au genre restent cependant très marquées. Enfin, j'ai aussi inclus le revenu et le patrimoine dans les variables de contrôle. De la même façon qu'avec l'âge, la prise en compte des effets du revenu et du patrimoine modifie légèrement le niveau de la courbe, mais ne change rien à la tendance générale. Autrement dit, le retournement du clivage éducatif, c'est-à-dire le fait que le vote à gauche soit progressivement devenu celui des plus diplômés dans les années 1990-2020, est un phénomène que l'on retrouve à l'intérieur d'un groupe de revenus et de patrimoine donné. J'ai également inclus de très nombreuses autres variables de contrôle, comme la profession des parents, la localisation géographique, la taille de l'agglomération. Aucune de ces variables n'affecte la tendance au retournement du clivage éducatif. On retrouve également le même résultat si l'on compare non pas les diplômés du supérieur et les non-diplômés du supérieur, mais les diplômés du supérieur et du secondaire et les autres, ou bien les 10% les plus diplômés et les 90% les moins diplômés, ou encore les 50% les plus diplômés et les 50% les moins diplômés. Compte tenu du fait que c'est le clivage politico-éducatif dans son ensemble qui a changé de sens, le vote à gauche était décroissant tout au long de la hiérarchie des diplômes, des plus bas aux plus élevés, et il est devenu croissant tout au long de cette même hiérarchie. Peu importe la façon dont on découpe la répartition des niveaux d'éducation, on constate dans tous les cas le même retournement.